Vous avez la parole.
Mon cher Président, je vous remercie de vos paroles d'accueil et même de l'introduction que vous avez faite pour mon petit discours, en ce sens que vous avez parlé de photojournalisme. Et finalement, ce que je vais vous dire aura trait au photojournalisme, c'est-à-dire Émile Zola, donc témoin de son temps. Et je tiens à remercier aussi M. Le Duc Aline pour m'avoir invité, mais il n'écoute pas là, mais enfin, pour m'avoir invité gentiment à votre conférence ici. Et il a invité un technicien qui va essayer d'apporter, si vous voulez, un autre éclairage sur la photographie, donc, et sur Émile Zola et la photographie. La première chose qui est la plus pénible au début d'une conférence, c'est de mettre en place la prothèse audiovisuelle sans laquelle on ne peut plus travailler. Si vous permettez. Nous y voilà. Ma mission en tant que professeur consiste à apporter à la génération actuelle, ce qu'on appelle les jeunes, des connaissances scientifiques et historiques. Mais également, et ça je crois que c'est la chose la plus importante finalement, leur apporter aussi des réflexions sur notre civilisation. Tout n'a pas toujours été comme nous le vivons aujourd'hui. Et si on veut bien comprendre certains aspects de l'histoire, certaines vies de personnages illustres, il est absolument nécessaire d'étudier, de connaître le contexte de cette époque-là. 1789, bicentenaire de la Révolution française, on nous a saturé les oreilles avec cette révolution. Mais, nous l'avons d'ailleurs fêté avec faste, mais actuellement, nous passons totalement sous silence une autre révolution, beaucoup plus importante pour notre civilisation, que la destruction de la Bastille, l'utilisation de la guillotine et les droits de l'homme. C'est tout simplement un centenaire, le centenaire de la révolution technique. Il ne faut pas oublier donc 1876, le téléphone. Avant, il n'y avait pas de téléphone. Il faut voir ensuite l'invention de la TSF, 83-99. Il faut voir l'invention par Thomas Edison du phonographe. Tout à l'heure, vous avez vu cette magnifique photographie de Zola montrant la Tour Eiffel éclairée avec des ampoules électriques. C'est l'invention de Thomas Edison également. Les rayons X par le docteur Röntgen qui ont vu le jour en 95, la théorie de l'évolution de Charles Darwin, les bacilles de Louis Pasteur, la radioactivité de Henri Becquerel. Ce sont donc des inventions énormes pour notre civilisation actuelle. Pour ces inventeurs, pour ces scientifiques, on a construit des expositions universelles que j'appellerais des cathédrales, pratiquement, des panthéons, 1872-18, 89 et surtout 1900. Actuellement, 1990, nous sommes blasés, presque indifférents. Plus aucune invention ne nous étonne. Mais comment cela se passait-il il y a une centaine d'années ? C'est-à-dire à l'époque qui nous intéresse, de 1890. C'était la révolution au point de vue hygiène. Louis Pasteur, il ne faut pas oublier que c'est Louis Pasteur quand même qui a assaini Paris avec le tout à l'égout. Première liaison télégraphique avec les USA. La guerre de 70. Enfin, on pouvait se battre avec une poudre qui ne prenait pas l'eau. Les ampoules électriques de Thomas Edison, le cinéma inventé et par Edison d'un côté et par les frères Lumière de l'autre, c'est-à-dire la restitution du mouvement de la vie. Et n'oublions pas naturellement aussi, en 98. Donc, la première exposition automobile. Ici. Voilà. Une photographie d'ailleurs historique. Hein. Sans oublier, naturellement, l'invention du cinéma par les frères Lumière. N'oubliez pas aussi qu'à cette époque-là, le mode de vie changeait subitement. Le mode de vie changeait subitement en ce sens que grâce à l'invention, l'industrialisation très exactement d'Henri Bessemer de l'acier, l'invention de la dynamique par Alfred Nobel, les chemins de fer ont tissé leur toile d'araignée en France. Évidemment, ça n'a pas toujours été très très simple, puisque vous avez la célèbre photographie ici de cette locomotive qui a oublié de s'arrêter à la gare Montparnasse. Ensuite, vous avez eu aussi les premiers viaducs de Gustave Eiffel. Et ce que l'on oublie peut-être aussi, les premières lignes à haute tension qui actuellement tissent une véritable toile d'araignée à travers tout notre paysage. Ce sont les changements que Émile Zola a vécu. Paris change également. N'oublions pas que c'est presque la fin des grands travaux du baron Haussmann, à savoir le boulevard de Sébastopol, boulevard Saint-Michel, rue du 4 septembre, avenue de l'Opéra. Voici une célèbre image de cette époque-là, une célèbre photographie, où l'on reconnaît à peine la place qui est face donc, à l'Opéra. Il ne faut pas oublier que c'est la construction également de la Tour Eiffel en 1889 et non pas en 1900. On croit toujours que la Tour Eiffel a été construite pour l'exposition universelle de 1900. Ce n'est pas vrai, c'est pour 1889, pour le centenaire de la Révolution française. Ensuite, la construction des premières lignes de métro qui ont été inaugurées pour l'exposition universelle. Voici une vue de Paris avec ses grands travaux de cette époque-là. Émile Zola a vécu tout cela. Il était donc sur les barricades, si je m'exprimais ainsi, de cette révolution. Et parmi celles-ci, parmi toutes ces révolutions qui ont envahi notre civilisation, il faut citer celle de l'image. Image qui, à cette époque-là, portait encore le nom de photographie. On peut se demander pourquoi Émile Zola n'a pas pratiqué la photographie, du moins il l'a pratiqué qu'à partir de 1894, et pourquoi pas avant. On admet que c'est probablement le maire de Royan qui, lors de ses vacances, lui aurait montré cet art. Personnellement, je suis d'avis que la photographie d'amateur à la portée de tous, venant de naître une dizaine d'années auparavant, Émile Zola ne pouvait pas, n'a pas pu la pratiquer avant 1890. Comment se faisait la photographie avant 1880 ? Avant 1880. Eh bien, c'était encore l'époque qu'on appelle l'époque du collodion humide. Le collodion humide est une substance sensible à la lumière qu'il fallait fabriquer, utiliser et couler sur place sur une plaque de verre. Donc imaginez le photographe de l'époque, une plaque de verre, il coule son émulsion sensible sur cette plaque, naturellement dans l'obscurité, c'est-à-dire dans une tente. Cette plaque, ensuite, il la prenait pour la mettre dans le châssis, grâce à un châssis, dans son appareil, dans sa chambre noire. exposer quelques secondes et revenir en catastrophe sous la tente pour développer. Il fallait donc fabriquer et développer sa plaque sur place. Ceci, évidemment, nécessitait un transport de la tente et de tout le matériel sur le dos. Et lorsqu'il s'agissait de prendre des vues, soit du Mont Blanc, soit du Sahara, soit du Paris-Dakar, il fallait donc être très agile et surtout très costaud pour emporter tout ça. La photographie, à ce moment-là, était réservée uniquement à quelques spécialistes. Il faut attendre des travaux préliminaires de 1871 de Richard Maddox et de l'anglais Charles Bennett, qui apparemment n'ont pas eu beaucoup de succès à cette époque-là. Ils ont été publiés dans les journaux scientifiques et c'est tout. Un Américain, George Eastman, de New York, de Rochester très exactement, a eu l'idée de utiliser les travaux de Charles Bennett et de Maddox pour fabriquer des plaques photographiques. C'est-à-dire qu'à la place de ce fameux collodion humide dont je vous ai parlé à l'instant, il utilisait un autre produit que vous connaissez sous une forme culinaire qui s'appelle donc la gélatine. Grâce à cette gélatine, George Eastman a pu fabriquer des plaques photographiques sèches. Des plaques photographiques sèches, d'où le nom de son usine, Eastman Dry Plates Company. Ces plaques sèches pouvaient se mettre dans des boîtes, on pouvait emporter en voyage le nombre de boîtes que l'on voulait, on pouvait charger son appareil, et ensuite, et surtout ensuite, développer ces plaques dans le noir, au laboratoire, beaucoup plus longtemps après. C'est ça la révolution dans le domaine de l'image, c'est ça la démocratisation, la portée à tout le monde de la photographie, la mise à la portée de tout le monde de la photographie. Et à un tel point, que ces plaques étant vendues en boîte, et le fait qu'on pouvait les développer plus tard, on n'avait plus besoin de pieds pour supporter cette chambre qui était très lourde. N'oubliez pas qu'une chambre photographique à l'époque pesait de 15 à 50 kilos. Eh bien, maintenant, grâce à ces plaques beaucoup plus sensibles, il n'était plus nécessaire d'avoir un pied pour supporter cette chambre. Et de ce fait-là, toutes les publicités de cette époque-là montraient des jeunes filles, des dames en train de photographier. Pourquoi ? Parce que l'appareil est devenu beaucoup plus simple. C'est ce que j'appellerais donc une révolution, c'est-à-dire une démocratisation, si vous voulez, d'une technique. Quelques années plus tard, ce même George Eastman a eu l'idée de remplacer ces plaques de verre qui étaient lourdes, le verre est très lourd, cassable surtout, par un film souple, qu'on appellerait maintenant une pellicule si vous voulez, film souple qu'on peut enrouler sur une bobine. C'était en 1888. À partir de cette date-là, il a été obligé donc de construire un nouvel appareil dans lequel on pouvait mettre non plus une plaque, mais une bobine. À partir de cette date-là, il y a eu une véritable explosion de fabrication d'appareils photo. De plus en plus petits, de plus en plus légers. Et là aussi, si vous voulez, les publicités se sont données à cœur joie, donc, de montrer de charmantes dames en train d'utiliser l'appareil photographique. c'était donc à partir de 1888. Et c'est à partir de ce 1888 qu'on a pu enfin trouver à la disposition de tout le monde les produits, non seulement les appareils, mais aussi les films, ainsi que les plaques, et surtout les produits chimiques nécessaires au traitement, c'est-à-dire au développement. D'ailleurs, pour la petite histoire, voici le tout premier appareil donc, de George Eastman. Ici. Le tout premier appareil, c'était tout simplement une boîte très très simple, avec à droite donc, cette bobine sur laquelle était enroulé un film sur lequel on pouvait prendre à peu près donc, une centaine de photographies. Voici ce même appareil un peu agrandi. Il se trouve que c'est le tout premier, c'est-à-dire le Kodak numéro 1. Là aussi, pour la petite histoire, j'essaie de rectifier un petit peu le passé. Et le nom de Kodak ne vient pas du tout du clic-clac, merci, je ne sais pas quoi, mais provient tout simplement du pays, enfin de l'État des USA, de l'État d'où était natif justement le constructeur de l'appareil numéro 1. Il était natif du North Dakota et ça a permis donc de créer ce mot de Kodak. Voilà pour la publicité. Tout de suite, c'est-à-dire à partir de 1888 déjà, même avant, déjà en 86, George Eastman établit des succursales dans tous les pays, en Angleterre en particulier, en Allemagne et en France. Le représentant de George Eastman n'était autre que Nadar. Nadar qui a donc connu Émile Zola. Donc Nadar a distribué les appareils Kodak. Et quels étaient à cette époque-là, c'est-à-dire là, aux alentours de 1890, quels étaient les appareils qui étaient en usage, qui étaient utilisés? Alors tout d'abord, il y avait les anciens appareils qu'on appelle les chambres noires. En voici une, qui est d'ailleurs très belle, en acajou cerclé de laiton. Cet appareil, avec son pied, ma foi, pesait 50 kilos à peu près. Donc vous voyez, c'est intransportable. On appelait ça des caméras de studio. Caméra de studio. Elle permettait surtout, le gros avantage de ces appareils-là, c'est de pouvoir bien cadrer le sujet. Au fond de cet appareil, ça ici, de ce côté-là, vous avez donc un châssis que l'on peut remplacer par un verre dépoli, et à ce moment-là, vous voyez l'image sur ce verre dépoli, et vous pouvez le triturer, vous pouvez l'arranger, vous pouvez faire un décentrement, vous pouvez avoir une image qui convienne à ce que vous voulez avoir. Au point de vue netteté, au point de vue éclairage, à tous les points de vue. C'était donc des appareils excellents pour les portraits. Mais, pour, à la suite, disons, de l'invention et de la commercialisation par George Eastman de la gelatine, des plaques dites sèches, on eut l'idée de faire des appareils beaucoup plus légers. Beaucoup plus légers parce que les plaques étaient beaucoup plus sensibles à cette époque-là. Il n'y avait plus besoin d'avoir un pied pour éviter de bouger. Plus besoin d'avoir ce couvercle devant l'objectif pour faire l'exposition. De ce fait-là, on a créé toute une série d'appareils dits de voyage, dont font partie les détectives, les folding et les jumelles. Alors, excusez-moi, qu'est-ce que c'est qu'un appareil détective? Eh bien, les appareils détectives, vous les connaissez très bien, ce sont tout simplement des boîtes, la boîte carrée, enfin cubique ou généralement cubique, oui, mais pas obligatoirement. Et ces boîtes-là se tenaient donc devant soi et on pouvait photographier presque à l'improviste, comme un détective. Vous voyez, plus besoin de cette grande mise en scène de la chambre noire, du velours noir, ainsi de suite. La petite boîte pouvait se transporter sur soi et on pouvait donc photographier à l'improviste très rapidement. D'où l'expression « les appareils détectives ». L'inconvénient de ces appareils-là, c'est qu'il n'y avait pas de viseur. Vous voyez là-dessus, il n'y a aucune visée. On vise au jugé, en braquant l'appareil dans la direction voulue, et on ne peut pas mettre au point. Toute photographie prise à moins de 2 mètres est obligatoirement floue. De ce fait-là, très rapidement, les constructeurs ont voulu ajouter une visée supplémentaire à cet appareil-là, appareil que l'on tenait à ce moment-là au niveau des yeux, on regardait à travers le donc à travers l'oculaire de visée, et cela donnait ce que l'on appelle les appareils jumelles. Voici en particulier l'appareil jumelle de Carpentier dont s'est servi Émile Zola. C'est un appareil donc qui permet, à droite ici, à droite vous avez donc, à cet endroit-là ici, vous avez l'œilleton de visée qui permet de mettre également au point. Ce sont les appareils dits jumelles. Et ensuite, il y a aussi ce fait que George Eastman s'est rendu compte qu'à partir de 1880, 88, 90 surtout, il y a eu ce désir de la population de vouloir connaître le monde. C'est l'époque des grands transatlantiques qui en traversent évidemment l'Atlantique, mais qui allaient beaucoup plus loin, les grands steamers. C'est l'époque des Jules Verne et Karl May et autres auteurs qui parlaient des pays lointains. C'est l'époque aussi où Baedeker, qui est totalement méconnu actuellement, a écrit les premiers guides que j'appellerais Michelin, mais enfin à l'époque ça s'appelait guide Baedeker. Eh bien, vu ceci, George Eastman a mis au point à ce moment-là des appareils encore plus petits que ceux-ci, des appareils que l'on peut plier, qu'on peut mettre dans sa poche. On appelle ça les appareils folding. Appareils folding, ici j'en ai quelques-uns, de différentes tailles naturellement. Ce sont des appareils donc qui ont été créés aux alentours de 1892, 1902 même, j'arrive pas à mettre au point, aux alentours de 1902, ce sont des appareils donc qui se plient. Alors quels sont maintenant les types d'appareils que possédait donc Émile Zola? Je crois que monsieur donc en a déjà parlé tout à l'heure, mais vous trouvez cette liste dans le livre Zola et la photographie. Je me permets tout simplement de vous la rappeler. Zola possédait donc une série d'appareils qui appartenaient aux quatre races, aux quatre types d'appareils. Premièrement, la chambre qui lui a permis de faire des portraits. Et deuxièmement, les petites boîtes, les détectives, de ceux-ci, il avait le fameux détective Nadar. Voici ce détective Nadar qui se chargeait par une plaque, avec des plaques au fond, grâce à des châssis que vous voyez ici. Ces plaques avaient une dimension de 9 fois 12 cm. Ensuite, il possédait un expresso de Murer dont je n'ai pas réussi à voir une photographie. Cet appareil-là était chargé avec un film de format 6-9. Donc, il faut bien faire attention, nous en parlions tout à l'heure, que dans les archives d'Émile Zola, il n'y a pas seulement des plaques, mais vous devez avoir aussi des films. Et alors, des films sur support souple, Et malheureusement, de ces supports souples, celui qu'on utilisait à cette époque-là n'était pas un film de sécurité comme actuellement, c'est-à-dire ininflammable, mais c'était un film à base de celluloïdes. Le celluloïde porte un autre nom, c'est celui de coton-poudre. Et tel, enfin, ça veut bien dire ce que c'est-à-dire que c'est un produit hautement inflammable. Donc attention, il existe donc sûrement des films d'Émile Zola, mais sur support nitrocellulose. Il possédait également deux appareils jumelles, dont la plus connue, évidemment, la jumelle la plus connue étant celle de Carpentier que je vous ai montré tout à l'heure. Je me permets de vous la remontrer ici. L'appareil, donc, la jumelle de Carpentier qui permettait de mettre au point. Il possédait également une sténo-jumelle de Joux que je n'ai pas réussi à retrouver non plus. Et parmi les foldings, il a eu donc toute la série des foldings de Kodak, je pense que c'est par l'intermédiaire de Nadar, en particulier un appareil dont il serait bon, là je ne peux pas vous répondre, de retrouver les plaques, enfin les films plus exactement. Parce que cet appareil-là s'appelait le panoramique numéro 4 et qui faisait donc des photographies de 30 cm de longueur. 30 cm de longueur sur pratiquement 9 cm de largeur. Cher monsieur, donc il a dû faire, oui, probablement, je pense, des... Pardon ?
Le temps nous presse. Donc,
excuse-moi ?
Pardon, le temps nous presse. Nous devons absolument commencer le prochain exposé vers 12h. Donc
d'accord, oui.
Terminer assez rapidement, merci.
Oui. Et ensuite, il y avait donc les foldings qu'il possédait, dont je vous ai parlé. Je voudrais terminer juste maintenant sur un tout petit détail, moi qui m'a paru beaucoup et très important à mon avis. C'est le fait que non seulement il a voulu être le témoin de toutes ces révolutions et à Paris, en France et dans la civilisation et dans les mœurs, mais également parce qu'il a voulu, enfin il a pu ainsi trouver un véritable plaisir que j'appellerai, vous m'excuserez du terme peut-être, mais sensuel. C'est-à-dire que non seulement au point de vue prise de vue sur le verre dépoli, on peut cadrer, on peut modeler, on peut faire placer les éclairages là où on veut, mais surtout après, préparer les bains de traitement. Il a développé lui-même, il avait 3 laboratoires. Donc, préparer ces bains-là, préparer, toucher l'obscurité du laboratoire, les plaques sensibles, les développer, et qui n'a jamais développé une plaque ne peut pas se rendre compte de la magie qui se fait devant vous de voir cette image argentique qui apparaît tout doucement. Et ensuite, faire de nombreux essais de tirage pour obtenir naturellement une meilleure image sur papier, cela, ça relève d'un amour sensuel, de domination de la technique. Et de plus, 1890, c'était l'époque de la vulgarisation de la physique et de la chimie. Chacun pouvait faire des expériences de physique amusantes et de chimie amusantes chez soi. Les expériences de chimie permettaient de jouer aux sorciers et aux magiciens. Rappelez-vous les livres qui existaient à cette époque-là. Je pense qu'Émile Zola a aussi voulu être un magicien de la photographie. Je vous remercie de votre attention.
Merci.
Et je me tiens à votre disposition pour tout détail technique.
Bien, je vous remercie beaucoup donc, de cette communication sur les appareils utilisés par Émile Zola. Maintenant, je vais passer la parole à Madame Naomi Shore, qui va nous parler de Zola et la carte postale, ou peut-être un sujet qu'elle précisera personnellement. Elle est professeure à l'université, dans une université américaine, qui est l'université de Duke.